إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, bi'idnillah, bi'aunillah, subhanahu wa ta'ala, on va commencer une série qui a pour titre les différences jaliyah entre la salafia et la hizbiya. À la base de ce titre, ce sont des cours qui ont été donnés, ou une conférence plus que complète qui a été donnée par notre cher bien-aimé Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, hafidhahullah ta'ala, et qui donc démontre les différences fondamentales qui se trouvent entre la da'wa, qui est dite la da'wa salafia, qui se rattache donc à la voie des pieux prédécesseurs, comme il se doit. Et de l'autre côté, de l'autre rive, la da'wa dite hizbiya, cette da'wa sectaire, et qui va suivre elle et se conformer à des bases qui sortent des règles établies depuis le Coran et la Sunna par les pieux prédécesseurs, salafus salih. Et on va voir qu'il y a donc différents points qui vont être développés, ou différentes bases, sachant, et ça c'est un point qui est essentiel et fondamental, c'est que souvent on entend cette personne-là, elle est taxée d'être hizbi, alors que elle fait des cours sur la croyance des noms et des attributs d'Allah Azzawajal, et que ces cours-là, ils sont conformes à la croyance des gens de la sunna, à la croyance des salafs. Donc sa croyance, elle est bonne. Donc comment taxer cette personne de hizbi, d'une personne qui est sortie du manhaj salafi? On va voir, et ça va être là, un grand bayan, un grand éclaircissement qui va être fait, c'est que il y a plusieurs bases dans la croyance, plusieurs bases dans le manhaj. Il n'y en a pas qu'une. Il se peut que la personne soit conforme sur une, sur deux, sur trois, sur quatre bases, ou même plus, qu'elle ne soit pas conforme sur d'autres bases. Celle qu'on va détailler, celle qu'on va voir. Et donc, ici, et ça c'est un point qui est important, c'est que tout simplement, la personne, pour qu'elle suive le manhaj des salafs, pour qu'elle soit considérée comme une personne qui a une croyance, qui a un manhaj qui est sain, selon le Coran et la Sunna, il doit se conformer à tout ce qui est venu dans la religion, dans toutes ses bases, dans tous ses points. Et si elle dévie dans une seule de ces bases-là, alors elle sort de cette voie droite. Ces bases qu'on va, principalement, qu'on va ici citer, et qui en réalité vont nous ramener à toutes les bases qui ont été détaillées dans les livres de la croyance par les salafs, et ensuite ceux qui les ont suivis parmi les grands savants. Min ahli sunnati wal jama'a. Et avant cela, une introduction s'impose, et l'on sait que dans cette communauté, la communauté musulmane, depuis qu'elle a commencé à se répandre, depuis que son expansion a débuté, elle a connu ses ennemis, des ennemis qui sont de l'extérieur et des ennemis qui sont de l'intérieur. Ceux qui sont de l'extérieur, al-a'da'u dhahirun min al-kuffar, les ennemis apparents entre les mécréants, ceux-là, ils sont connus. Leur stratagème est connu et ils ne cessent de combattre cette religion. Wallah al-musta'an. Il y a la deuxième catégorie qui est celle des gens de l'intérieur. Soit qu'ils sont des hypocrites, soit qu'ils sont des gens qui n'ont pas accepté la religion dans son ensemble et telle qu'elle est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont pas suivi la voie des pieux prédécesseurs qui s'en ont écartés. Et ces gens-là, ils sont nombreux. mutaaddidin, et ils sont de différentes catégories. Ces gens-là, wallah al-musta'an, certainement que leur mal, qui se développe donc de l'intérieur de la communauté, de l'intérieur des musulmans, c'est un mal qui est terrible et dévastateur. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde l'histoire depuis l'avènement de l'islam jusqu'aux premières générations, alors on va voir qu'il y a eu d'un côté l'apparition de ces sectes-là qui ont proliféré, wallah al-musta'an, et de l'autre côté, de l'autre rive, il y a ceux qui se sont attachés à ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est enseigné par les compagnons. Ces compagnons qui ont enseigné aux tabi'in, aux atbar al-tabi'in, et ainsi de suite, et qui sont restés fermes sur leur religion, sur leurs croyances, sur la voie qu'ils ont empruntée. Ils sont restés fermes. Lorsqu'on a parlé du premier groupe, et qui sont les gens al-kufr, les gens de la mécréance, il faut savoir que leurs actions menées contre cette communauté sont bien différentes de ceux des gens de l'égarement et de l'innovation. Et plus précisément, les faits et les résultats. C'est différent. Car on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que ces gens-là, ils ne viendront jamais à bout de l'islam. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils manigancent, que soit grand ou petit leur stratagème, ils ne peuvent venir au bout de cette religion. Ils ne peuvent venir à bout de cette religion. Et ils ne peuvent donc avoir le dessus de manière totale. Ça, c'est impossible. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a informé lui-même dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah fi Sunanihi, ou Ahmed fi Musnadi, ou Ibn Khuzayma fi Sahih. Et ce hadith, il a plusieurs shawahid par rapport à son sens. Et la base même de ce hadith se trouve dans l'authentique de l'imam muslim, min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas, et qui est un hadith rapporté donc, suivant cette version-là, min hadith Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها. Le prophète صلى الله عليه وسلم, un jour, comme le rapporte Mu'adh, il a pris une prière, et cette prière, elle était longue. Il a prié longuement, صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطالت اليوم الصلاة. Donc ils lui ont demandé pour se renseigner, pour savoir comment il se faisait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a allongé sa prière aujourd'hui. Ils lui ont demandé, et il a dit, il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inni salaytu salatan rahbatin wa rahbatin. » C'est-à-dire que j'ai prié, il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai prié une prière d'espoir et de crainte. » Rahba wa rahba. سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا. J'ai demandé à Allah عز وجل trois choses. فأعطاني اثنين ورد واحدة. Il m'en a donné deux. Il m'en a refusé une. سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. فأعطانيها. Et donc la première requête du prophète صلى الله عليه وسلم, cette invocation même, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que les ennemis en dehors des musulmans n'ont jamais le dessus, ne prennent jamais le dessus sur les musulmans. Bien entendu, ils ne prennent le dessus de manière totale jusqu'à ce qu'ils viennent à bout de cette religion et des gens de cette religion, comme on l'a cité. Et Allah azawajal lui a donné, c'est-à-dire qu'il a répondu à son invocation de manière positive, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ici c'est la preuve que cette communauté jamais ne sera battue par les kuffars, jamais. Quoi qu'il advienne. La deuxième, وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ غَرَقًا فَأَعْطَانِيهَا. Il a demandé également que cette communauté ne soit pas exterminée par le naufrage, par la noyade. Et également cette requête, a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière, et c'est celle donc qui est Mardouda, c'est celle qui est rejetée. وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. C'est-à-dire qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, que leur force ne soit pas, bien entendu ici c'est à titre de combat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat ou qu'ils ne se combattent pas entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui adviennent entre les musulmans. هَذَا الْبَأْسِ. Yani qu'ils ne fassent goûter leur force, qu'ils ne fassent goûter donc leur force. Et donc le combat ici entre les musulmans. Et celle-là, elle a été refusée. Wallah al-musta'an. Donc, à partir de là, on s'aperçoit que ce qui a été cité auparavant, il est présent dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que le mal, il est bel et bien différent de la première catégorie des ennemis. Et ses conséquences et son résultat. Et devant cela, le croyant, celui qui s'attache à sa religion, celui qui s'y accroche, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sunan sur ses créatures. Que ce qui est advenu dans l'histoire, c'est advenu. Et ce qui va advenir, ça adviendra. C'est des sunan qui ne changeront jamais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne seront jamais remplacés. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils font des stratagèmes. Et Allah de même, il est le meilleur de ceux qui rusent. Subhanahu wa ta'ala. Et également, il dit à son prophète, وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. C'est-à-dire, ne sois pas à l'étroit de ce qu'ils stratagèment, de leur ruse. Allah Azza wa Jalla, il est avec ceux qui ont fait preuve de taqwa, de crainte, et de ceux qui ont été bienfaisants, muhsinoun. Et donc on voit que la personne, si elle concrétise ce qui est demandé dans ce verset, alors qu'est-ce qu'il va obtenir? Ma'iyatullah al-khassa. Allah subhanahu wa ta'ala, il sera avec lui. Hadhihi al-ma'iyya al-khassa. Donc cette compagnie qui est bien précise, bien spéciale, et celle qui se traduit donc par ta'yid, c'est-à-dire l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur. At-taqwa wal-ihsan. At-taqwa wal-ihsan. Et si on regarde ces deux fondements de la religion, at-taqwa wal-ihsan, on va s'apercevoir que lorsqu'on les applique, où on les compare, plus précisément on les compare à la communauté, alors on va s'apercevoir que soit il y a ce qui les contredit de manière yanimunafatun kulliya, ce qui contredit, ce qui va en encontre de cela de manière totale, aoujuziya, de manière partielle. Ce qui va à l'encontre de manière totale, ashirk al-akbar. Et malheureusement, le shirk, et même sous sa forme majeure, elle est présent, il est présent dans cette communauté. Les gens qui invoquent directement des morts, qui demandent à des morts, ou toute autre forme de shirk, ayadan billah, ou alors qui va à l'encontre de manière partielle, comme al-shirk al-asrar, comme le fait de jurer par un autre qu'Allah, al-nadhar, al-dhabh, wal-riya, etc. Ou alors, également ce qui rentre fi shahawat, c'est-à-dire dans les passions, dans les grands péchés. Et combien de musulmans sont dedans? Al-kabair, al-zina, l'adultère, sharb al-khamr, boire l'alcool, et toutes les formes du fujour. Wallah al-musta'an. Wa minhum man lubbisa alayhim dinu. Et ça, c'est encore pire. C'est ceux dont on leur a donné une éducation ou des informations ou une science qui est contraire à la véritable religion. C'est comme une falsification. Mais dans tout cela, il faut savoir que ce qu'il y a de plus dangereux, Ce sont al-shubuhat wal-arwa. Ce sont les gens donc. De al-shubuhat, des doutes, des suspicions, wal-arwa, des passions. Selon ce sont eux les pires. Et qui font le plus grand dégât dans la religion. Et par leur voix, par la porte qu'ils ont ouverte, rentrent toutes les catastrophes où la communauté est touchée. Et même si on s'aperçoit, lorsque les ennemis de la religion, ils veulent combattre cette religion même, à sa source, c'est-à-dire cette religion authentique, alors ils savent qu'ils n'ont aucune chance lorsqu'ils s'y prennent de manière directe. Ils l'ont compris à travers Al-Usur, à travers les siècles qui sont passés, à travers l'histoire. Ils savent que c'est une mission qui est impossible. Donc, quelle est leur voie? C'est qu'ils utilisent ces gens-mêmes. Bien souvent, ils utilisent ces gens-mêmes de l'innovation. Donc, regardez par où vient le mal. Et ces gens-là, al-shubuhat wal-ahwa, ils ont embelli beaucoup de choses aux musulmans. Naam, ils embellissent. Soit ils embellissent les innovations, ils rentrent également dedans pour certains groupes, pour certaines firaq, ils rentrent dedans même les péchés au nom de l'islam, comme par exemple le vin, où certains groupes, parmi les soufis, l'utilisent. Ils appellent ça la boisson spirituelle. Ou alors également la musique, ils appellent ça l'art qui nourrit l'âme et l'élève. Allah al-Musta'an. Ou alors, d'autres, ils utilisent le riba. Ils leur donnent donc des noms qui donne une nouvelle couleur au péché, comme si c'était quelque chose qui était en réalité dans les règles et dans les limites de la religion, de l'islam. Lorsqu'il parle du riba, il parle d'intérêt du domaine, de la nécessité économique. Et pour les autres, qui vont encore plus loin de ce qui est des shubuhat al-bidar, c'est-à-dire l'innovation dans la religion, alors eux aussi, ils viennent avec des noms. Lorsqu'ils parlent par exemple des groupes, ils disent « al-jama'at tawhid », c'est-à-dire les groupes du tawhid, ou « jama'at al-muslimin », ceux qui « yaj'alun tafriq tajmi'an », c'est-à-dire donc ceux qui en réalité divisent les musulmans, ils le placent comme ce qui les réunit. Ou alors ceux qui parlent, lorsqu'on parle de l'obéissance au hakim al-muslim, au gouverneur qui est musulman, alors ils appellent ça « ta'atun et tawarit », c'est-à-dire donc « obéir au tawarit », etc. Des noms qui sont donnés pour faire fuir les musulmans de ce qui est l'obéissance, ou alors, au contraire, pour les amener à ce qui est à la désobéissance. Et il y a aussi ce groupe qui lui éloigne, qui font fuir les gens du péché à cause de leur extrémisme. Il y en a le rouleau. Al-Rulou Fiddin, comme ceux qui empêchent donc le mal ou qui essayent d'empêcher le mal, bistibahati dima'a ou l'al-usat, en rendant légitime de faire couler le sang de ces gens-là. Ou alors qui rentrent dans le takfir direct, takfir al-usat, c'est-à-dire le takfir de ces gens qui sont tombés dans la perversité. Et ces gens-là, bien entendu, de par leur acte, il faut fuir également les gens qui sont à l'origine dans le péché, et comment ils vont revenir à la religion lorsqu'ils vont voir ces actes-là, lorsqu'ils vont voir cette voie-là qui est empruntée. Et lorsque la personne, réellement, elle voit ce qui est importé dans la religion comme façade à cause de cela, alors elle se rend compte de la portée, de l'impact de leurs actes. Al-Khawarij, ils sont apparus, Al-Mu'tazila, Al-Rawafid, les soufis. Et leurs croyances et égarements, il s'est propagé au fil des temps, au fil du temps. Mais à côté de cela, tout le temps, il y a eu un salaf et ceux qui les ont suivis. Du temps d'Al-Khawarij, il y a ceux qui les ont combattus, bilbayan ou al-lisan, auprès de ces gens-là, et ont tenté donc de les faire revenir sur le droit chemin. Bilbayan, c'est-à-dire donc l'éclaircissement par les preuves. Et d'autres, bissinan, c'est-à-dire donc par les armes, par la force, comme l'a fait Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu lorsqu'il a combattu le Khawarij. Donc les salafs et ceux qui les ont suivis, ils sont donc un support inconditionnel pour la vérité. Donc comme on dit, que ce soit bil bayan ou bil sinan. Et lorsqu'on parle de ces sectes elles ont des bases, elles ont une histoire. Et l'important, c'est de savoir qu'elles existent jusqu'à nos jours. Ces sectes-là, elles existent jusqu'à nos jours. Il n'y a pas une secte qui a terminé. Car lorsqu'on parle de secte, l'important, c'est de savoir que l'afkar, c'est-à-dire les pensées, les innovations dans la croyance qu'elles ont apportées, elles continuent à travers le temps. Et donc, si elles continuent, s'il y a des gens donc, qui portent encore ces croyances-là, qui portent encore ces innovations, c'est-à-dire donc qu'elles sont toujours présentes. Et même certains, dans certains cas, il y a les fondateurs qui, eux, sont revenus sur le droit chemin, comme cela est arrivé avec Abul Hassan al-Ash'ari, la secte qui est connue comme étant l'Ash'arira, qui est présente jusqu'à nos jours, dont il y a des universités qui propagent cette croyance-là, dont leur support scolaire se base sur les livres de cette secte-là, l'Ash'arira, jusqu'à nos jours. Alors que le fondateur lui-même, il est revenu sur le droit chemin. Il a délaissé cette croyance pour la croyance dans ce qu'il s'était égaré, ici plus précisément, l'asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, alors que lui, il est revenu, mais cette pensée et cette innovation dans la religion, elle a continué. Et jusqu'à nos jours, ils sont présents. Donc on voit ici que c'est bien cette innovation qui a été inventée, qui continue. Et donc la secte, à partir de là, elle continue de même. Ensuite donc, toujours pour ce qui est de cette introduction, c'est que le mal qui arrive et qui se propage dans la communauté, et spécialement donc chez les jeunes, on va dire chez les jeunes de façon générale, ou ceux qui reviennent à la religion, et ceux qui commencent à apprendre, ceux qui commencent à se renseigner, ceux qui commencent à vouloir revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu, min tawfiq Allah azza wa jal. Ça c'est le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne donc à son serviteur, c'est qu'il va mettre sur son chemin à cette personne qui veut revenir à Allah azza wa jal, une personne qui est lui-même sur le droit chemin, dans la croyance, dans la science, et qui va donc apprendre de lui ce qui est réellement authentique. Ça c'est ni'ma d'Allah azza wa jal. Mais bien entendu, il y a des causes et des asbab pour toutes choses. Et parmi ces causes, c'est que la personne qui veut revenir à la religion, qu'elle ne le fasse pas n'importe comment. Et qu'elle sache, dans un premier temps, de qui elle va prendre cette religion. Et comment elle va apprendre cette religion. Ça, c'est des points qui sont fondamentaux. Si la personne, elle délaisse cela, ou elle ne se préoccupe pas de cela, alors, Allah al-Musta'an, elle peut tomber sur n'importe qui. Et qu'elles ne disent pas, comme on entend de certains, moi je me base par rapport à mon bon sens, à ma bonne raison. Qui t'a dit que ta raison elle est saine? Qui t'a dit de ce dont tu viens, ce dont tu as appris auparavant? C'est des choses qui n'ont pas perturbé, qui n'ont pas pollué ta propre raison. Et naam, la religion, c'est « qala Allah, qala Rasulullah ». C'est la religion de la droiture, dans toute chose. Et rien n'a été délaissé. Tout a été mis au clair. Et beaucoup de gens qui se sont égarés ou qui sont rentrés dans le Hizbiyah, c'est venu de ce premier pas, du premier mauvais pas. Et ils se sont précipités dans l'apprentissage. Ils n'ont fait preuve d'aucune prudence. Ils n'ont pas été stricts à ce niveau-là. Sur les références de leur apprentissage, Et ces références-là, elles sont de trois, où ces références, elles vont apparaître dans trois moyens, pour être plus précis. Al-Mujalasa, les assises, Al-Sama', l'écoute, ou Al-Qira'a, la lecture. Al-Mujalasa, les assises de science, Al-Sama', l'écoute, qui est ici encore plus général, donc écouter, que ce soit écouter des cassettes, que ce soit écouter des conférences par la radio, etc., ou par tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est mis à notre portée, disposition, l'internet, etc. Al-Mujalasa, qui est bien plus direct, qui est le fait donc de s'asseoir auprès de ceux qui enseignent. Al-Mujalasa. Wa-Sama' wa-Al-Qira'a. Al-Qira'a, bien entendu, la lecture. Et comme il a été dit, Man jalasa julisa lahu, wa man takallama sumi'a lahu, wa man kataba quri'a lahu. C'est-à-dire celui qui va s'asseoir, il y a des gens qui vont venir s'asseoir auprès de lui. Celui qui va parler, qui va faire des cours, etc., il y a des gens qui vont venir l'écouter. Et celui qui va écrire, il y a des gens qui vont le lire. Al-Mujalasa, Al-Sama' wal-Qira'a. Et donc, si ces moyens sur lesquels vont être basées les références de l'apprentissage, la personne, elle les prend en étant stricte, en étant prudent, alors, Inch'Allah wa ala khair. Car c'est bien ce que souffrent beaucoup de jeunes de notre époque. Cette attitude. Cette attitude d'apprendre n'importe comment et de n'importe qui. Et ils vont tomber sur des gens qui, malheureusement, eux, ils vont mettre un voile entre lui et la vérité. Hijab. Et ce voile-là, il va se matérialiser à travers les moyens modernes de propagation, comme on a dit. Et qui rentre donc plus précisément fils Samar, mais également Al-Qira'a, que ce soit donc les chaînes de télévision, que ce soit les enregistrements audio, que ce soit donc l'Internet, comme on a parlé, et tout ce qui rentre dans l'Internet, les vidéos, les cours, etc. Et si tu regardes maintenant la da'wa de Al-Hizbiya, alors tu vois qu'ils vont s'activer à puissance 10 pour mettre ce voile-là, pour éteindre la da'wa salafiya. Ils font des grands efforts. Ils mettent beaucoup d'énergie dans cela. Ayadan billah. Dans leur doros, dans leur khutab, dans les cours, dans toutes les directives qu'ils donnent, etc. Et ils le font avec éloquence. Bien entendu, ils savent qu'il y a une des choses qui attire beaucoup de jeunes, c'est lorsqu'une personne elle est éloquente. Donc avec l'éloquence, elle sait qu'elle a une arme avec laquelle elle peut attirer beaucoup de gens. Et même si elle dit n'importe quoi. Et même si elle les invite à l'égarement. Et ça, on l'avait déjà détaillé dans un des cours qu'on avait fait, lorsqu'on avait rappelé le athar de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, anhu, et que les gens, ils se divisaient en trois catégories. À la kulli hal, la personne, donc, elle doit être stricte. Elle doit faire preuve de rigueur dans ce domaine-là. Ça, c'est un des points qui est, pour les premiers pas du musulman, qui est vraiment essentiel. Et lorsqu'on voit les paroles des salafs et leur agissement, par rapport à ces gens-là, les gens donc de l'innovation, alors on s'aperçoit qu'ils étaient plus que stricts. Et ces paroles que l'on connaît, « Iyakum wa mujalasatu ahlil bid'ah, fa inna umridatun lil-qulub », c'est-à-dire « faites attention » et on met en garde de s'asseoir auprès des gens de l'innovation, car qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend les cœurs malades. Inam, la personne qui écoute un innovateur, son cœur il devient malade. Et c'est pour ça que Ibn Sirin, lorsqu'il y a deux hommes qui sont venus auprès de lui pour pouvoir lire ou pour vouloir lire des hadiths et des versets du Coran, il leur a demandé de partir ou sinon lui il partait. Et lorsqu'ensuite on lui a demandé, Wama ya Abu Bakr, wama kana alayka an yaqra alayka ayatan min kitabillah, il a dit donc, j'ai eu peur, j'ai eu la crainte qu'il lit un verset du Coran, qu'il le détourne. Et qu'ensuite, ça se stabilise. فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي. Ça se stabilise dans mon cœur. Ça s'imprègne dans mon cœur. Et lorsque les gens de l'innovation, ils venaient voir Ayoub, Sartiani, ils leur disaient, يَا أَبَا بَكَرْ أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَا كَانَ يَقُلْ وَلَا نَسْفَ كَلِمَا. C'est-à-dire, on te demande en un seul terme. Ils disaient même pas la moitié d'un. Ça, c'était leur hirs. Hirsuhum. C'est-à-dire donc leur attitude qui était stricte, qui faisait preuve de rigueur. Car ils savaient que le cœur, c'est quelque chose qui est fragile. Et ce qui rentre, ou ce qui fait rentrer, ou les voies qui mènent au cœur, c'est-à-dire donc, on va dire les entrées par lesquelles ces chouboites, elles arrivent jusqu'au cœur, c'est l'oudhun. Ce sont donc les oreilles, et également les yeux lorsqu'on lit. C'est-à-dire donc qu'elle a une emprise totale sur la personne, sur le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que Soufiane disait, Celui donc qui a une chouba, qui ne l'expose pas à ses frères. Wa al-hizbiyoun, ils ont deux grands points à concrétiser. Le premier, c'est at-takhlit bayna as-sunna wa al-bid'ah, c'est-à-dire de mélanger la sunna et l'innovation. La sunna wa al-bid'ah, at-takhlit, donc mélanger, faire un mixage, ayadan billah, bayna as-sunna wa al-bid'ah. Et la deuxième chose, c'est at-tajmi' bi ghayri at-tarbiyah, c'est-à-dire de réunir sans même éduquer les gens sur la vraie voie. Hamshi at-tajmi' yajma'un. Yajma'un an-nas, al-jam'. Pour eux, le jam'a, c'est le principal. C'est pour ça qu'ils rassemblent. Mieux ils rassemblent, et mieux ils concrétisent pour eux leurs, ces objectifs-là. Et mieux ils rassemblent, et mieux ils mélangent la bid'a ou la sunna. Et donc, durant ces cours, on va répondre à cette question qui est fondamentale, et qui se pose donc, comment différencier entre la salafia et la hezbiya? Et quels sont les points limitrophes? C'est-à-dire les limites qui se trouvent entre la salafia et la hezbiya. Beaucoup de gens, lorsqu'on dit la hezbiya, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ont du mal à projeter de manière concrète qu'est-ce que la hezbiya. Et c'est pour ça donc que ces cours, ils vont répondre à beaucoup de leurs questions à travers donc les points, tous les points qui vont être développés. Et une dernière chose qu'on rappelle, et un point également qui est important, très très important, c'est farqun. بين من غير أصوله ومن غير طريقة أصوله. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre celui qui va changer ses bases, غير أصوله, ومن غير طريقة أصوله. طريقة أصوله. C'est-à-dire celui qui a changé la voie de parvenir à son but, à son objectif. Et entre les deux, il y a une différence qui est plus que grande. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les hommes, فَإِنَّ الرِّجَلْ يُعْرَفُونَ بِالْحَقِّ, ils sont connus à travers donc la vérité. Et on ne connaît pas la vérité à travers les gens, les hommes. وَلَا يُعْرَفِ الْحَقِّ بِالْرِجَلْ. Ça, c'est deux points qu'il faut bien avoir à l'esprit avant même de continuer cette série. Les points qui vont être développés, c'est les suivants. Donc, lorsqu'on dit points, c'est en fait des bases, c'est-à-dire des bases. Et dans ces bases-là, on va connaître les véritables différences qu'il y a entre la voie des pieux prédécesseurs et la voie de ces hezbiyoun. La voie salafia dit salafia et celle qui dit hezbiya. La première base, c'est le muqif min al-irtiqad fi sifatillah. C'est donc la position qu'ont les gens par rapport à leur croyance en ce qui concerne les attributs d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la première base qu'on va développer et dont on va voir. La deuxième base, el muqif min al-shirkiyat. C'est-à-dire également l'attitude ou la position des gens par rapport à tout ce qui rentre fi shirkiyat. Ensuite, al-muqif min al-imama. Ça, c'est le troisième. Al-imama. Al-imama tu fi din. Al-imama. On va développer, on sera, bien entendu, base par base, ce qui est voulu. Le quatrième, al-muqif min al-jama'a. C'est-à-dire la position qu'ont les gens par rapport au groupe. On voit ce que veut dire al-jama'a. Ensuite, le cinquième, al-muqif min al-jihad, la position des gens donc par rapport au jihad. Le sixième, c'est al-muqif min al-dima al-ma'souma bil-iman wal-aman, c'est-à-dire la position des gens par rapport au sang qui est considéré comme sacré, ma'souma, dont on ne peut toucher, que ce soit par la foi, c'est-à-dire qu'il a été sacré par la foi, ou dont on ne peut toucher de par la foi, ou alors al-aman, la sécurité. Al-muqif min al-ulama, c'est-à-dire la position par rapport aux savants. Et qui sont les savants? Les savants de la sunna, qui ils sont réellement. Al-ul-ilm. En huitième, al-muqif min al-bid'a wa ahliha. Également la position qu'ont les gens par rapport à l'innovation et aux gens de l'innovation. Et ensuite, le neuvième et l'avant-dernier, al-muqif min al-takfir. Al-muqif min al-takfir, c'est-à-dire la position par rapport au takfir, de toutes les questions qui rentrent dans le takfir. Et ensuite, la dernière, al-muqif min aqidati al-wala'i wal-bara. La position par rapport à l'aveu et au désaveu, de la croyance, de l'aveu et du désaveu. Ça en fait 10. Et comme on l'a dit, si une personne n'est plus en conformité avec une seule de ces bases-là, alors ce n'est pas une personne qui est considérée comme suivant la salafia. Mais il va rentrer dans ce qu'on appelle al-hizbiya, à travers ces 10 points. Al-hizbiya, qui est bien entendu l'antonyme de al-salafia, à travers ces 10 bases. Donc on va détailler. On va rapporter les paroles des savants. On va voir les preuves de ce qui va être dit. Et Inch'Allah, ce sera clair à travers ou au fil des cours.